Retrouvez Géoula Time, une émission présentée par le Rav Meir Attal.
Shavua Tov Umeorar, j'espère que tout le monde va bien, que Shabbat s'est bien passé. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très intéressant de la paracha de Vayetse, qui est autour de l'idée comment c'est possible qu'un tzadik tel que Yaakov s'est marié avec deux sœurs, qui a priori est très difficile à comprendre. On parle quand même d'un des plus grands du peuple juif et qui concrètement va fonder le judaïsme autour d'un mariage qui, a priori, est très difficile à comprendre. Alors, on va d'abord essayer de revenir un peu dans le contexte pour comprendre de quoi nous parlons. Yaakov, à 60 ans, il a volé les brachot de son frère. Car son frère est un voyou, Esav. Et la mère de Yaakov, elle lui dit, va prendre les bénédictions de ton frère, et si ton père maudit parce que tu l'arnaques, tu lui mens, tu te fais passer pour ton frère, c'est sur moi les malédictions. Donc Yaakov, il va voler les bénédictions de son frère, il a 60 ans à ce moment-là, et il va étudier la Torah de Shem et Hever pendant 14 années, donc il a 74 ans, il n'est pas marié, il n'a pas encore goûté au plaisir de la vie. On dit même qu'il a jamais eu de perte séminale tellement jusqu'à 74 ans. Donc c'était un grand juste qui était capable de maîtriser ses plaisirs comme peu sont capables de le faire. Et à 74 ans, il décide de partir, d'aller voir son oncle pour prendre ses filles, pour se marier avec ses filles, car il savait très bien qu'il ne pouvait pas se marier avec les filles de Canaan. Aujourd'hui Israël, car ils n'étaient pas adaptés et pas assez purs pour qu'ils puissent se marier avec ces filles-là. Donc ils décident indirectement de rester dans la famille, de se marier avec la famille. Et il sait très bien que la famille de son père a une certaine pudeur, une certaine pureté. Et donc il faut rester dans le schéma familial. Et quand il va, il devient extrêmement pauvre parce que le fils d'Esav vient et lui vole tout. Il devait le tuer, mais au final, il lui vole tout. Et par le fait qu'il lui vole tout, quelque part, c'est comme si qu'il avait tué, parce qu'Eliphaz, normalement, était censé tuer, parce que son père, Esav, lui avait demandé de tuer Yaakov, donc son frère. Donc, en réalité, Eliphaz venait pour tuer son oncle. Mais quand Yaakov arrive chez Lavan, il voit Rachel, il tombe amoureux. On l'a déjà vu dans un des cours précédents. Il tombe amoureux. On dit que directement, il l'embrasse. Et il veut se marier avec elle, mais le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent. Et quand il voit son oncle, Lavan, il lui dit, écoute, je désire me marier avec ta fille. Maintenant, Lavan, c'était un grand vislard, et il voulait à tout prix beaucoup d'oseille, beaucoup d'argent. C'est un homme qui aimait l'argent. Et quand Yaakov était venu, on dit comme quoi il a essayé de voir est-ce qu'il était riche, parce qu'il savait que Yaakov, normalement, il aurait dû venir avec toutes les richesses d'Yitzhak, comme ça s'était passé pour sa sœur, donc Rivka. Rivka, quand il devait se marier avec sa sœur, donc quand Yitzhak voulait se marier avec sa sœur, on dit que Eliezer est venu avec une très grande richesse. Et Lavan, il avait accueilli, il a vu un homme extrêmement riche. Donc il s'est dit, si ma sœur, elle s'est mariée avec le père et c'était quelqu'un d'extrêmement riche, alors le fils, il doit avoir la même richesse. Mais quand il a vu que Yaakov n'avait pas un sou, il lui a dit, écoute, tu veux te marier avec ma fille, il va falloir que tu travailles 7 ans. Et on dit qu'il a travaillé pendant 7 années. Donc pendant 7 années, il a travaillé très dur. On dit jour et nuit, il s'occupait des travaux de son oncle, Lavan. Et la condition, c'est qu'il se met avec Rachel. Maintenant, Lavan est un grand vicieux. Yaakov le savait. Dans les règles établies, il lui avait prévenu, je ne veux pas que tu me roules, donc je veux Rachel, la petite. Et il avait dit beaucoup de mots pour justement, comme quand t'écris un texte, tu sais les risques qui sont possibles, donc tu clarifies pour ne pas qu'on puisse t'arnaquer. Yaakov savait que Lavan était quelqu'un qui était rusé et qui risquait de l'arnaquer, donc il dit, je veux Rachel, la petite, ta fille. Donc vraiment, pour bien définir que c'est bien Rachel et pas quelqu'un d'autre. Et malgré tout, le jour du mariage, Yaakov pense que en face de lui c'est Rachel, mais il ne sait pas qui est en fait non pas Rachel mais Léa. Et au final, on dit que c'était pendant l'obscurité, donc il voyait pas. Et il s'est marié, donc il s'est marié dans tous les plans avec Léa. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il voit dans sa chambre, qui était allongée avec lui, c'est Léa. Et Yaakov est très énervé, et il va voir Laban, il lui dit « Pourquoi tu m'as arnaqué ? Je t'avais prévenu que je voulais que je me marie non pas avec Léa, mais avec Rachel. » Et on voit que Laban, il lui a dit « Non, chez nous, les règles sont que d'abord on se marie avec la grande, et après, uniquement, on peut se marier avec la petite. » Et on dit que donc 7 jours après, Yaakov, donc 7 jours, ce qu'on appelle les Shiva Brachot, donc il y a les Shiva Brachot qui vont passer, et après les Shiva Brachot, donc après les 7 jours, Yaakov va se marier avec Rachel, donc la petite qu'il aimait, et qui était au final la femme de sa vie, la femme, c'est, on peut dire l'amour de sa vie, même s'il était marié aussi avec Léa, au final il va se marier avec Rachel. Maintenant on peut poser une question qui est évidente. Déjà, sur le plan psychologie, c'est très difficile, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance quand deux sœurs sont mariées avec un même mari. On sait très bien que les deux femmes ne s'aiment pas. C'est-à-dire que quand un homme il a deux femmes, bah, il y a une rivalité entre elles, et donc ça crée beaucoup de guerres. Dans l'histoire, aujourd'hui même, on a interdit, dû au fait que quand on est marié avec deux femmes, il y a tellement de haine entre les femmes que ça peut être très dangereux pour le mari. Et on voit que même des grands tzadikim qui sont mariés avec plusieurs femmes, ça a tourné au désastre et au drame. On voit clairement que quand, en réalité, une femme, bah, si tu veux énerver ta femme, tu veux l'embêter, tu lui dis, ouais, dans la Torah, il y a marqué comme quoi on a le droit de se marier avec deux femmes, même si aujourd'hui c'est interdit parce que les sages l'ont interdit après avec le temps, mais initialement, même si la Torah l'autorise, eh ben, on sait très bien que c'est quelque chose qui est compliqué, la femme elle supporte pas, d'accord ? Et dû au fait que la femme ne supporte pas, ça crée des dérapages qui sont dangereux. Et donc les sages l'ont interdit parce qu'ils savent que le fait de marier deux personnes, un homme avec plusieurs femmes, et ben au final les femmes se détestent et ça peut être dangereux pour le mari, même des fois pour la communauté tout entière, parce que ben, la femme elle veut se venger indirectement. Maintenant, si tu te maries avec deux sœurs, donc tu vas créer une haine entre deux sœurs. Donc on comprend pas très bien. C'est quoi la logique ici de Yaakov de se marier avec deux femmes ? Surtout que, et là, en l'occurrence, c'est pas deux femmes, c'est deux sœurs. Donc, se marier avec deux femmes, on voit que Abraham se marie avec deux femmes. D'ailleurs, c'était même sa femme qui lui avait conseillé de se marier avec une autre femme parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, donc c'est pas le problème. Le problème, c'est comment ça se fait qu'Yaakov il se marie avec deux sœurs ? Surtout que quand on connaît bien la Torah, on sait très bien que la Torah interdit formellement, pour quelqu'un de, comme aujourd'hui, peu importe, hein, bah regardez bien, que la Torah interdit formellement qu'un homme se marie avec deux femmes. Donc, on voit bien que, on sait que Yaakov Avinu a respecté les 613 commandements. Donc, si Yaakov Avinu a respecté les 613 commandements, on dit qu'il a étudié la Torah pendant 14 ans, jour et nuit, sans dormir, il n'a même pas dormi l'équivalent d'une demi-heure, donc il dormait des micro-sommeils pour pouvoir supporter, il étudie la Torah jour et nuit pour pouvoir fonder après le judaïsme, à 74 ans, il va aller chez Lavan, 7 ans encore, il va passer, donc il a 81 ans si je ne me trompe pas, donc il va se marier à 81 ans, et il va avoir de sa première goutte de semence qui sort de lui, Réhouven, son premier, son aîné, donc on parle d'une sainteté hors du commun, donc Yaakov est un homme d'une sainteté qu'on peut même pas imaginer, il va donner, il va mettre au monde le peuple juif, donc c'est lui qui est appelé Bechir Avot, l'élu des patriarches, donc il a vraiment une aura particulière, une très grande aura, c'est quelqu'un de très puissant, de très aimé, mais on sait que d'où vient cette aura, c'est qu'il étudiait la Torah, donc il connaissait toute la Torah, tous les rabbanim aujourd'hui face à Avraham, face à Yaakov, c'était des enfants, presque. C'est-à-dire que Yaakov, c'est un génie hors du commun. Mais pas seulement que c'est un génie hors du commun, aussi, nous disons qu'il pratiquait tous les commandements. Donc, Shabbat, c'est sûr qu'il le pratiquait. Kashrout, donc le fait de faire Shabbat, de ne pas allumer la lumière Shabbat, du feu de Shabbat, c'est sûr qu'il le faisait. Le fait de ne pas porter à l'extérieur pendant Shabbat, c'est sûr qu'il le faisait. Donc, Yaakov, il pratiquait toutes les mitzvot. Mais une des mitzvot, qui a priori est très importante, de ne pas se marier avec deux sœurs, eh bien Yaakov, ce commandement-là, il ne le respecte pas. Donc, mis à part que c'est grave au niveau psychologie, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas mettre de la haine entre deux sœurs qui sont censées s'aimer, parce qu'on sait très bien que les sœurs s'aiment, Hein, quand tu fais du mal à une sœur, quelqu'un que tu pourrais dire qui divorce, eh ben on sait très bien qu'après toute la famille te déteste. Donc au final, il y a une fraternité entre les frères, entre les sœurs. Là, tu vas te mettre avec deux sœurs, donc tu vas créer une jalousie entre elles, donc tu vas créer de la haine. À part cela, donc à part cette question qui saute aux yeux, et psychologiquement, on sait que Yaakov, c'est un homme bon, qui faisait très attention à respecter les gens. Deuxième question, qui est d'autant plus importante, comment se fait-il que Yaakov va contre un commandement de la Torah? Dans la Torah, il y a marqué, t'as pas le droit de te mettre avec deux sœurs. C'est un sourd, c'est un interdit. Yaakov a respecté tous les commandements. Alors tu vas me dire, oui, mais là on est en l'an 2000, et le don de la Torah est en l'an 2248. Certes, mais Avraham, Yitzhak, Yaakov, quand il respectait la Torah, même si la Torah n'a pas été donnée, il l'a respectée. Donc pourquoi ce commandement-là n'a pas été respecté? On sait que Yaakov faisait Shabbat, on sait que Yaakov, avant de manger une bête, il faisait la Shrita, il coupait la gorge d'une certaine manière, comme aujourd'hui les Shochatim, comme les gens qui tuent les bêtes, ils savent le faire, donc ils connaissaient toutes les lois. Il a étudié la Torah, il était pieux, il avait une sainteté hors du commun, il était le fils de Yitzhak, le petit-fils de Avraham, c'était le référent de Dieu sur terre, c'était le référent du judaïsme sur terre, c'est lui qui va faire descendre les 12 tribus, et parce qu'il quelque part il savait que son rôle était grand. Et quoi? Il a la bénédiction de son père. Et quoi? Il va contre un des commandements. On sait que le jour de Kippour, tous les liens interdits entre les hommes et les femmes, on le lit parce que toute la sainteté passe par là. Et on voit que là, Yaakov, quelque part, il va transgresser un commandement qu'un homme, il pourra se marier avec deux sœurs. C'est un interdit de la Torah. Alors c'est vrai qu'il n'est pas obligé. C'est juste qu'il a pris sur lui, comme Avraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, il faisait les 613 commandements parce que c'était une sorte de plus. Ils n'avaient aucune obligation de le faire. Ils avaient pris ça sur eux parce qu'ils avaient envie de se spiritualiser. D'ailleurs, Dieu les a aimés avec autant d'intensité et autant de puissance, et il leur a donné tellement, parce que justement, c'était pas obligé, mais c'était parce qu'ils avaient fait un choix, parce qu'ils voulaient se spiritualiser, parce qu'ils avaient cette conviction de s'attacher à Dieu, et donc d'être les représentants de Dieu sur terre, donc ils sont attachés avec une très grande force. D'accord? Donc, ils faisaient ça, non pas en tant que loi d'obligation, mais plutôt en tant que plus. Mais donc si tu fais toute la Torah, si tu fais toutes les mitzvot, si tu étudies la Torah 14 ans dans les Shiva Tchamel Ever, si même avant t'étais déjà en train de tuer la Torah, si ta mère elle sait que c'est toi le futur d'Israël, pourquoi tu te maries avec deux sœurs? D'autant plus que c'est pas deux sœurs, c'est quatre sœurs. Parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va se marier avec Bila et Zilpa, et que on sait très bien que Bila et Zilpa étaient les sœurs de Rachel et Léa. Donc on comprend pas très bien à quoi cela rime. Il y a une réponse qu'on pourrait éventuellement donner, mais qui va être rejetée, c'est que une personne qui se convertit n'a plus de lien parenté. J'explique. Selon la Torah, quand quelqu'un s'est converti, quand il monte à la Torah, on n'appelle pas le fils de son père, donc on ne donne pas le nom de son père, mais on donne le nom de Avraham. Donc on dit Ben Avraham. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'au final, il n'a plus vraiment de lien avec sa famille. Bien sûr qu'il en a un au niveau physique, mais au niveau de l'âme et au niveau de son appartenance au peuple juif, quelque part, le lien qui l'unit à ses parents, au niveau spirituel, je ne parle pas physique, je parle au niveau spirituel, et ben quelque part, n'est plus. Et donc, selon cette hypothèse, on pourrait dire éventuellement que le fait que Rachel et Léa se sont pliés aux règles de la Torah, donc ils ont décidé de se soumettre aux règles divines et de faire les commandements divins, alors ils sont considérés comme des convertis, et à partir de là, le fait que Yaakov s'est marié avec deux sœurs, c'est plus considéré comme réellement comme deux sœurs, et donc il aurait éventuellement le droit de se marier avec deux sœurs. Alors déjà, sur le premier plan qu'on a posé, donc la première idée qu'on a dit qu'au niveau psychologie c'est compliqué, ça répond pas à la question. Parce que même si c'est vrai que, alors on va dire que c'est des nouvelles personnes, c'est comme si c'est des nouveaux-nés, et donc ils ont plus de lien parenté, et donc quelque part le fait qu'ils se marient avec deux sœurs, eh ben il y a plus la transgression au niveau de la Torah.
même qu'on verra que c'est pas facile à le dire parce que ça tire pas la route. Mais mis à part cela, sur le plan psychologique, ça marche pas. Pourquoi? Parce que une des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs, c'est parce que tu crées de la haine entre deux êtres qui s'aiment. Et donc là, quand tu vas te marier avec deux sœurs, cette haine-là, tu vas concrètement l'avoir. Et même si la Torah, elle dit qu'ils ont plus de lien parenté au niveau spirituel, au niveau fraternel, ils l'ont toujours. Donc concrètement, son père et sa mère, biologique, c'est leur père et leur mère. Donc, t'enlèves pas leur lien au niveau de la source. Ça reste son père, ça reste sa mère, premièrement. Deuxièmement, quand on dit qu'ils n'ont plus de lien parenté, c'est après le don de la Torah, et non pas avant. C'est-à-dire que là, le don de la Torah n'a pas encore eu lieu. C'est dans 2, 3, 400 ans après. Mais au moment où Yaakov se marie avec deux sœurs, okay, on n'a jamais vu, même dans Rashi, dans la Torah elle-même, que il y avait une conversion telle qu'on la connaît nous, et donc qu'ils n'ont plus de lien parenté et que quelque part ils ont spirituellement, c'est plus leur père, c'est plus leur mère. Donc au final, cette réponse-là ne tient pas la route. Ça veut dire que selon l'idée qu'on vient de citer, qu'ils n'ont plus de lien parenté, ça aurait été vrai qu'après le don de la Torah. Mais là, vu qu'on est avant le don de la Torah, et surtout que le fait que les Avot, donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont pris sur eux ce plus de faire les 613 commandements, c'était qu'un plus, mais nous voyons que leurs enfants, donc les 12 tribus, et après, quand ils étaient en Égypte, ils n'ont pas respecté les 613 mitzvot. Ils respectaient les lois noachiques, les 7 lois noachiques, ne pas tuer, ne pas voler. Et on voit même que même les chefs de tout Israël, on parle de ceux qui sont tout en haut d'Israël, Amram, qui était le chef d'Israël. Il faut savoir que Amram, quand il a divorcé de sa femme, parce que Paro avait défini la mort de tous les garçons, et ben tout le peuple juif avait divorcé aussi. Parce que Amram, c'était la référence du judaïsme à son époque. Et pour autant, il s'est marié avec qui? Il s'est marié avec sa tante. Et nous savons que la Torah interdit de se marier avec deux sœurs, et interdit aussi de se marier avec sa tante. Et donc on voit que clairement que le fait que les Avot avaient pris sur eux de faire les 613 mitzvot ne les rendait pas obligés de les faire, et que leurs enfants à eux n'ont pas respecté, donc les 12 tribus, et même Amram, le père de Moïse, n'a pas respecté les 613 commandements. Et donc de dire qu'ils sont, que quand quelqu'un devient, il respecte les 613 commandements, ou il veut prendre sur lui de respecter les règles de Dieu, et donc de respecter la divinité, rend cette personne-là une nouvelle personne, c'est pas écrit, ça figure nulle part, donc ça tient pas la route. Donc c'est évident que cette réponse-là, de dire que, en vérité, comme ils se sont convertis au judaïsme, entre guillemets, c'est une nouvelle personne, et donc ils n'ont pas transgressé, ça marche pas. Alors c'est quoi la réponse? Pour comprendre la réponse, faut d'abord essayer de s'arrêter un petit peu sur la manière dont ils vivaient à cette époque. Et le rapport qu'ils avaient avec les commandements divins, qui au final est différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous aujourd'hui, on a les 613 mitzvot qui sont tous des obligations, point à la ligne. À cette époque-là, il y avait les lois noachiques, donc les 7 lois noachiques, ne pas tuer, ne pas voler, et surtout suivre des tribunaux que eux fixent les règles de jeu et que Dieu donne force de loi à ces tribunaux. C'est-à-dire que si je transgresse la loi qu'un tribunal a fixé, ben je vais contre la volonté divine, parce que c'est le tribunal qui a force de loi, car nous savons que le déluge a eu lieu parce que les tribunaux étaient corrompus, donc Dieu a donné une force de loi aux tribunaux, premièrement, et il y avait la volonté d'une imposition, donc la personne s'impose soi-même, par zèle, de faire les 613 mitzvot pour faire mieux que ce qu'ils sont obligés de faire, et que justement Dieu les aime parce qu'ils ont été capables de faire, non pas par obligation, mais juste par amour de Dieu. Donc on peut dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, quand ils faisaient les 613 mitzvot, il n'y avait aucune obligation. Ils ne faisaient pas ça parce qu'ils étaient obligés de le faire. Ils faisaient ça parce qu'ils aimaient Dieu, parce qu'ils avaient envie d'aimer Dieu, parce qu'ils avaient envie de se connecter à lui, parce qu'ils avaient envie d'être ses référents, parce qu'ils avaient envie d'être bénis par lui. Mais en aucun cas, ils étaient obligés de le faire. C'est juste qu'ils s'étaient obligés de le faire. Mais ils n'étaient pas obligés. C'était eux-mêmes qui s'étaient mis ces règles. C'est comme quelqu'un, on lui dit, regarde, moi, je t'oblige de faire 1 km par jour. Et lui, par zèle, il décide de faire 1 000 km. OK? Les 1 km, il est obligé de les faire. Les 1000 km, ça, c'est du plus. C'est lui qui a envie de les faire parce qu'il a envie de te faire plaisir. Mais en soi, toi, ce que tu lui as demandé, c'est de faire 1 km. Donc, les Avot, eux, ils faisaient ça. Et justement, c'est pour ça que Dieu les a aimés. Ils faisaient ça toujours, justement, pour aimer davantage Dieu. Mais il savait très bien que dès qu'il y a en parallèle une loi qui impose de ne pas faire ou de faire, et qui est une loi non pas de zèle mais d'obligation, cette loi-là, elle est supérieure. Donc j'explique. Abraham, il sait que dans la Torah, un des commandements les plus importants, c'est de faire la Brit Mila, c'est de se circoncire. Et pour autant, il attend 99 ans pour se circoncire. Alors on peut poser une question très simple. Pourquoi t'attends 99 ans? Tu peux le faire bien avant. Parce que, tout simplement, il y a une loi qui dit que t'as pas le droit de tuer. Et parmi le fait de ne pas tuer, t'as pas le droit de blesser. Parce que pour tuer, faut blesser. Et quand une personne se fait la Brit Mila, il se blesse. Et donc Abraham sait que même s'il a envie de s'attacher à Dieu, par amour, par zèle, par volonté de plus, il ne pourra faire ce commandement-là que si Dieu lui impose. Pourquoi? Parce que là, il va contre un autre commandement. Aujourd'hui, il y a une règle. C'est une mitzvah positive et une mitzvah négative. La mitzvah positive, elle est au-dessus de la mitzvah négative. Dans le cas où, par exemple, alors pour donner une image, normalement, on doit faire Shabbat. Maintenant, pour la Brit Mila, donc pour la circoncision, tu as le droit de faire la circoncision pendant Shabbat, même si normalement, tu n'as pas le droit de faire couler du sang pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire couler du sang pendant samedi. Mais puisque là, tu as une mitzvah positive, donc tu as un commandement divin et qui est supérieur, donc le commandement négatif passe en dessus, comme si il n'est pas là, et donc j'ai le droit de le transgresser. Quelqu'un qui est très malade, Dieu il t'oblige que ta vie elle passe avant n'importe quelle règle de la Torah, et donc dans le cas où tu es très malade, de transgresser le commandement divin, c'est une mitzvah. Donc je reviens, Abraham, il n'a pas encore l'ordre de pouvoir se faire mal, se blesser pour faire ce commandement-là de se faire la circoncision, donc il a besoin d'attendre 99 ans. Donc on comprend quoi? On comprend que, en fait, il y a deux catégories. Il y a le zèle, catégorie zèle, plus, parce que j'aime Dieu, parce que j'ai envie de l'aimer, et il y a catégorie obligatoire, comme par exemple, t'as pas le droit de faire couler du sang, sans raison, et donc, comme on l'a expliqué, la Brit Mila, il a dû attendre 99 ans. Ok, et on peut voir que Lavan, son beau-père, quand il a rusé avec lui et il lui a donné la grande, donc Léa, alors que lui il n'en voulait pas, ok, il a été obligé de donner des arguments. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait des règles qui avaient été établies par des tribunaux, dont le fait de ne pas avoir de rapport avec une femme que tu découvres, que tu veux l'obliger à aller avec toi, qu'en vérité dans la Torah il y a marqué t'as pas droit d'aller avec une femme qui est mariée, mais d'avoir un rapport avec une femme, ça, la Torah elle n'en a pas parlé à cette époque-là. Dans les lois noachiques, il n'y avait pas d'obligation de faire attention à ne pas violer. Les gens de l'époque, les savants, comme aujourd'hui, le viol c'est interdit, ils avaient fixé l'interdiction de tous les rapports qui sont interdits pour protéger l'humanité. Ok? Et donc au final, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Yaakov est dans une position où il sait très bien que même s'il y a l'envie de faire du zèle, il y a des règles à respecter. Lavan savait par exemple que comme il l'a arnaqué, il fallait que dans les lois, il puisse ruser. Donc qu'est-ce qu'il a dit Lavan? Il lui dit, oui, c'est vrai que je t'ai promis Rachel, et toujours je garde mes paroles, tu peux te marier avec Rachel. Mais avant de te marier avec Rachel, il faut d'abord que tu prennes la grande, parce que chez nous, d'abord on prend la grande, et après on prend la petite. Et alors, vous allez me dire, alors, malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que parce qu'ils ont envie de faire du zèle, alors on a le droit de casser les pieds à tout le monde. Mais bien comprendre que tu peux faire du zèle, tu peux faire mieux dans la Torah, dans les mitzvot, tu peux augmenter, être hyper marmire avec toi-même, à faire des choses que la Torah ne t'a pas demandé, mais c'est bien de le faire, que dans le cas où c'est pas sur le compte de l'autre. Puisque dans les lois noachiques, il y a une règle que quoi, il faut écouter les tribunaux. Et parmi les règles d'écouter les tribunaux, c'est de ne pas mentir. Et que Yaakov s'était engagé oralement à Rachel, donc la petite qu'il aimait, de se marier avec elle, même s'il était marié avec Léa, la grande, là, s'il se marie pas avec la petite, donc Rachel, indirectement, il va contre une promesse, un serment qu'il avait fait. Et là, en l'occurrence, on ne parle pas d'une chumra, on ne parle pas d'un zèle, on ne parle pas d'un plus, on parle d'une loi. Dieu, il a donné force aux tribunaux de fixer une loi que si tu transgresses cette loi-là, indirectement, tu vas contre Dieu. Parce que là, tout le monde était d'accord avec le fait qu'on n'a pas le droit de mentir, que quand on s'engage, on doit s'engager. T'as promis, tu dois le faire. Donc Yaakov, quelque part, il est obligé de se marier avec Rachel. Parce que là, c'est pas du zèle, c'est une loi. Voilà pourquoi est-ce que Yaakov nous a... Voilà pourquoi est-ce que Yaakov il s'est marié avec deux sœurs. Parce que quelque part, quand il s'est marié avec deux sœurs, il n'avait pas vraiment le choix. Parce que quand il s'est marié avec Léa, lui, il voulait pas se marier avec Léa. Mais son beau-père, il a rusé parce qu'il voyait que Léa était très triste et qu'elle voulait pas se marier avec Esav, ce qui était prévu. Donc il a arnaqué. Après, il était obligé de tenir son engagement parce que là, en l'occurrence, c'est une loi divine qui n'a pas le droit de transgresser. Et donc, quand il se marie avec Rachel, c'est vrai qu'il n'a pas fait les commandements, les 613 commandements, mais il était obligé de respecter les lois qui étaient en vigueur à cette époque. Les 613 commandements, c'était que du zèle, c'était que du plus. Par contre, les lois noachiques, c'était une obligation. Parmi les lois noachiques, c'est écouter les tribunaux. Écouter les tribunaux, c'est de ne pas mentir. S'il ne se marie pas avec Rachel, il ment à Rachel, et donc il va contre un commandement des tribunaux que Dieu a donné force de loi, donc il va contre ce que Dieu lui a demandé, et donc là il n'avait pas le choix de laisser de côté indirectement les lois, le zèle, le plus, d'écouter, de faire les 613 commandements pour respecter les lois noachiques. Et donc nous, ce qu'on peut apprendre là, qui est très important je pense, c'est que beaucoup de gens ils veulent faire du zèle, ils veulent manger kasher de manière extrêmement stricte, ils veulent étudier la Torah, ils veulent prier, ils veulent acheter, ils veulent faire des choses de manière extrêmement marmire, vraiment avec un zèle hors du commun. Mais parfois, ils manquent de respect, ils dénigrent leurs parents, ils dénigrent leurs frères et sœurs, ils font sur le compte de l'autre, ils imposent leur façon de réfléchir en considérant pas les autres, en se pensant supérieurs parce qu'ils font ce que Dieu leur demande. Savoir une chose, c'est que Yaakov a été prêt à transgresser un commandement de la Torah qui n'était pas en vigueur à cette époque-là pour ne pas manquer de respect aux autres. On raconte que le fondateur de la Chassid Chabad, le Baal HaTanya, ce qu'on appelle le vieux rabbi, pendant le jour de Kippour, ses Chassidim le voient se lever. Pendant le jour de Kippour, un moment très important, il se lève et il sort de la synagogue, les Chassidim le suivent, et il voit qu'il va, il le surveille, et il voit qu'il va couper du bois le jour de Kippour, c'est lui-même qui coupe du bois. Il prend ce bois, il en fait un petit tas, il le met dans un sac, il le porte et il se dirige à nouveau vers la ville. Il le surveille. Le jour de Kippour, tu coupes du bois et il va et il rentre dans une petite maison tout abîmée et il continue à surveiller et il voit que l'Admor HaZaken, le fondateur de Chassid Chabad, c'est un tzaddik hors du commun. Il va, il allume le feu le jour de Kippour lui-même, il met les morceaux de bois, il chauffe de la nourriture, il donne à manger à une femme qui était enceinte, qui était en train d'accoucher, il l'allège dans son accouchement, elle avait déjà accouché, il lui sauve la vie. Ça veut dire que on ne fait pas du plus sur le compte des autres. T'as envie de faire quelque chose de bien, c'est bien, mais pas sur le compte de l'autre. Quand tu veux faire quelque chose de plus, c'est sur ton compte à toi. Si ça fait du mal à l'autre, tu le fais pas. Tu peux pas faire en plus parce que t'as décidé, juste parce que t'as envie de te flatter ton ego. Shabbat shalom à tout le monde. J'espère que cette petite idée puisse éclairer nos cœurs, éclairer vos cœurs, avec que de la joie si Dieu veut.